la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui dans une émission mi-visite, mi-parcours, mi-culture, mi-voyage, artistique, musical. Tout cela avec Alba. Bonjour Alba.
Bonjour Sylviane.
Qui m'accueille pour me guider et vous guider donc dans l'hôtel Richer de Belleval, place de la Carnourgue à Montpellier, qui est un lieu multiple. Nous parlerons de l'hôtel Richer de Belleval, de la fondation GGL, de l'exposition en cours Marlène Moquet, donc de beaucoup de choses. Et je pense, Alba, que on commence par la fondation GGL ou on commence par l'hôtel Richer de Belleval?
Je pense qu'on peut peut-être un peu contextualiser l'hôtel Richer de Belleval.
Et la fondation GGL.
Et puis donc la fondation GGL, évidemment. Donc nous nous trouvons dans un lieu qui est classé monument historique. On est dans un bâtiment qui date du XVIIe, qui a été effectivement entièrement restauré, qui était à l'origine un hôtel particulier et qui a été racheté en 2017 par des privés de certaines filiales d'un groupe, qui est le groupe GGL, qui est un groupe d'aménagement immobilier, dans l'idée d'en faire une sorte d'écosystème à l'intérieur duquel on retrouverait trois pôles. Un écosystème, tout à fait, puisque ça fonctionne vraiment ensemble. Donc à l'intérieur de cet écosystème, qu'est l'hôtel Richer de Belleval, vous êtes à la fois accueilli dans un hôtel 5 étoiles avec un standing relais château, mais également on va retrouver dans l'hôtel Richer de Belleval une partie qui est le restaurant gastronomique des chefs Jacques et Laurent Pourcel, le Jardin des Sens. Et vous pourrez trouver également un espace dédié à la fondation d'entreprise GGL, dédié à l'art contemporain.
Donc tout cela est très récent, mais l'hôtel Richer de Belleval, il a eu une vie mouvementée. On en reparlera peut-être une autre fois plus en détail. Et il est resté assez longtemps inutilisé. Enfin, il a eu une vie mouvementée, cet hôtel Richer de Belleval. On l'a vu et vous allez nous en parler dans la nécessité de restauration, parce que 2017, la plupart des œuvres que nous avons vues, dont vous allez parler, ont été finalisées en 2021, au moment du Covid.
Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été un petit peu retardé, puisqu'il était prévu à l'origine que l'hôtel Richer de Belleval rouvre ses portes en 2019. Il a été acheté donc en 2017. Finalement, coronavirus, mais c'était pas si mal, puisque la restauration de la plupart des œuvres a quand même pris presque 4 ans.
Et puis des œuvres qui sont faites in situ, hein, c'est-à-dire, on va en reparler. Donc on peut visiter la fondation GGL.
Librement, tout à fait.
Librement, plutôt les après-midi, non?
Alors ce sont tous les jours du mardi au samedi, de 14h à 18h. Vous pouvez venir librement visiter la fondation GGL, avec donc des expositions temporaires, qui changent à peu près tous les 6 mois. Et puis, vous pouvez également réserver des visites de l'ensemble de l'hôtel Richer de Belleval par mes soins, donc qui est plutôt une traversée à la fois historique, architecturale et surtout artistique, bien évidemment, puisque dans l'enceinte de cet hôtel, on va trouver 3 œuvres pérennes qui datent du XVIIe et qui ont été effectivement entièrement restaurées, et également 5 œuvres d'artistes contemporains et contemporaines qui habitent les plafonds de l'hôtel.
Donc la fondation GGL, en fait, a fait œuvre de mécénat en fait au niveau de l'art, quoi. C'est cela, comme il y a le château Lacoste ou comme il y a d'autres fondations. Et donc vous y travaillez avec grand plaisir,
bien entendu.
Vous rencontrez des gens magnifiques, des artistes, des galeristes, je suppose, des collectionneurs.
Bien sûr, des collectionneurs évidemment et des collectionneuses, bien sûr, des mécènes et puis évidemment un grand public, puisque cette fondation est visitable de manière absolument libre, mais également les clients et clientes à la fois du restaurant gastronomique et bistronomique, et également les clients de l'hôtel.
Donc, merci à vous, bravo, parce que c'est important d'être bien dans son lieu de travail, et j'ai eu le droit à une visite personnelle, merci encore.
Avec grand plaisir.
Et On voit que vous êtes artiste vous-même, on sent cette patte artistique dans la façon d'aborder. Puis vous nous avez dit, enfin vous allez en reparler, que là on a même le droit de toucher une œuvre, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'une œuvre, on la voit avec les yeux, mais quelquefois on a vraiment envie de toucher. Et comme c'est un hôtel, pour aller à certaines chambres, on passe par des œuvres. Et puis j'aimerais aussi que vous parliez, avant qu'on parle des œuvres, de l'aménagement, de la scénographie, parce qu'on sent qu'il y a eu vraiment une patte, hein, une volonté.
Oui, tout à fait. C'est un homme qui s'appelle Christian Coyot-Arré, qui s'est chargé de la décoration intérieure de l'ensemble de l'hôtel Richer de Belleval, donc à la fois du restaurant gastronomique, de l'hôtel 5 étoiles, et donc adapté également son mobilier et ses choix décoratifs aux œuvres pérennes mises en place. Donc ce travail, il s'est fait en même temps que la construction des œuvres. Parce que certaines de ces œuvres contemporaines, pour le coup, n'ont pas été faites in situ. Certaines ont été préparées depuis 2017 jusqu'au moment de l'installation en 2020-2021.
On va parler du plafond de l'entrée tout à l'heure.
Alors que d'autres, effectivement, ont été faites directement dans l'architecture, directement sur les plafonds, comme c'est le cas d'Abdelkader Benchama, par exemple.
Et moi, je signale le café, les litres, qui est assez extraordinaire aussi. Il y a le mobilier qui compte. Je suis très sensible à cette scénographie, parce que l'art, bon, ce sont des œuvres, mais c'est aussi tout un environnement.
Tout à fait.
Et on s'y sent bien, on ne sait pas trop pourquoi, mais... Et puis, dans cet hôtel, on disait « Ah, j'ai pas levé les yeux ». On sait que l'être humain a tendance à regarder plutôt ses pieds. On peut vraiment passer un temps à regarder, à admirer. Donc, cette fondation, et on va parler, enfin, vous allez parler de l'entrée, ce magnifique plafond. 105 cœurs,
c'est ça,
en céramique, et j'avais pas vu que c'était de la céramique. Je pensais que c'était
ça
de la peinture.
Ça passe un peu inaperçu. Hein.
Ouais. C'est une des œuvres permanentes.
Absolument, c'est le travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Jim Dine, qui est un artiste américain, qui est connu notamment pour la multiplicité des médiums qu'il utilise, à savoir qu'il est passé donc par le dessin, par la sérigraphie, par le happening aussi, qui est un peu la forme précurseur des performances artistiques comme on les connaît aujourd'hui. On passe aussi par de la sculpture, par de l'installation, donc c'est quelqu'un qui a un travail qui est très multiple et qui malgré tout va aborder dans ses préoccupations plastiques la relation au langage, au motif et à l'image. Et donc, pour l'œuvre qu'il a produite spécialement pour l'entrée, pour le hall d'entrée de l'hôtel Richer de Belleval, il nous accueille avec des cœurs. Le cœur, c'est pas complètement anodin dans sa pratique, notamment en lien avec le sujet qu'il aborde, à savoir la relation entre l'image et le mot. Le cœur, c'est un motif qui est compréhensible de manière universelle. C'est ça qui va l'intéresser pour cette
faire avec les deux mains, et tout le monde a compris.
Absolument.
Avec quatre doigts, fait le cœur.
Les plus jeunes d'entre nous font comme ça.
Alors, ah, ça je sais pas faire, mais à la radio ça passe pas, ça.
Non, ça passe pas. Et donc, effectivement, il a travaillé pour cette pièce-là en étroite collaboration avec la Manufacture de Sèvres, qui est donc un atelier de céramique de renommée à Paris, qui sont connus notamment, je fais une petite parenthèse, mais pour leur catalogue de couleurs d'émaillage, qui sont au nombre de 1200, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et lui, donc, a passé commande pour 7 nouvelles couleurs qu'il serait le seul à pouvoir utiliser et uniquement pour cette pièce-là.
Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une multitude de couleurs.
Parce qu'il la travaille, il va travailler ses mots comme une peinture, finalement. Donc on a cette espèce de travail de matière, de mélange qui est très organique.
On a l'impression que c'est fait au pinceau, quand on regarde attentivement.
C'est probablement le cas.
Ouais. Donc on s'y méprend jusqu'au bout.
Tout à fait. Et effectivement, à partir de cette contrainte d'un seul motif, qui est celui du cœur et qui devient une sorte de signature chez Jim Dine, et de seulement 7 couleurs, il nous propose un ensemble de 105 carreaux de céramique émaillée, tous différents les uns des autres, pour une œuvre qu'il va appeler « Faire danser le plafond ».
Et il danse, en effet, on a envie d'avancer. Alors on passe dans la pièce suivante, la réception. Et là aussi, une œuvre magistrale qui met déjà en valeur les voûtes.
Absolument.
Parce que là, on retrouve le passé. Et est-ce que les clients la voient assez? Il faudrait mettre des flèches, regarder
vraiment
en haut.
Mais comme vous le disiez justement tout à l'heure, les humains n'ont pas trop tendance à lever les yeux en hauteur. Et quand on arrive dans cet hôtel, en général, on est très vite assailli par les bruits environnants. On se présente aussi à la réception pour qu'on se retrouve dans cet espace et qu'on nous indique à quel endroit se rendre suivant si on va dans l'hôtel, dans le restaurant ou dans la fondation. Donc, elle passe plus ou moins inaperçue. Mais en
pas chez moi, pas pour moi. Moi, non, j'ai moi tout de suite été attirée parce que, eh, oui, vous me l'avez dit, on ose le dire, c'est votre œuvre préférée, mais tout est magnifique. Mais il y a une, elle vous plaît peut-être aussi par toute sa signification symbolique, plus ou moins consciente, inconsciente, pour tout ce qu'elle sollicite chez vous.
Très probablement. Et puis les questions dans cette œuvre-là de notions d'espace qui me concernent directement, c'est le travail d'un artiste montpelliérain qui s'appelle Abdelkader Benchama, qui est connu pour son travail de dessin, qui à l'origine se retrouvait d'une manière assez classique dans l'espace de la feuille. Et depuis une quinzaine d'années, on voit ce travail s'exporter hors du cadre pour venir coloniser l'architecture directement.
Donc, coloniser l'architecture, c'est un très beau terme, je trouve. Coloniser.
Mais c'est ça, il y a ce côté très rhizomatique aussi, très organique dans ce travail qui transforme complètement l'espace dans lequel on se rend par ce travail de dessin qui vibre à certains endroits. On est très souvent en noir et blanc chez Abdelkader Benchama. Et ce qui me touche particulièrement dans son travail, c'est ses recherches autour de disciplines philosophiques, scientifiques, qui abordent des thématiques d'espace. Ce qui va l'intéresser en particulier, c'est la relation qui peut exister dans certaines de ces disciplines entre les espaces réels que l'on côtoie tous et toutes à tout moment et les espaces mentaux, à savoir les projections mentales, le rapport aux rêves, aux souvenirs, donc quelque chose que l'on côtoie également tous et toutes à tout instant.
Oui, mais quand je parlais justement de cette émotion de consciente ou inconsciente, elle parle beaucoup, elle interpelle beaucoup cette œuvre. Et vous parliez d'investir l'architecture. Alors, quand on passe dans la pièce suivante, alors là, on a un choc, puisqu'on passe dans le 17e doré.
Absolument.
Mais on retrouve tout de même ces mêmes thématiques, on va y venir. Et je vous propose, pour nous préparer à ce choc vers le 17e, qu'on écoute de la musique baroque. Pas uniquement pour cette salle que vous allez nous faire découvrir, mais aussi pour Marlène Moquet, qui est exposée jusqu'au 27 avril.
Absolument.
Et qui... Il y a des liens tout de même. Hein,
beaucoup, et notamment des dorures, mais on y reviendra.
Des dorures. Donc là, on écoute une musique baroque que je pense tout le monde reconnaîtra. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons la visite avec Alba de l'hôtel Richer de Belleval, la fondation GGL. Et avant de passer dans la partie restaurant avec ses dorures du XVIIe siècle, Vous voulez spécifier quelque chose sur l'alchimie, hein?
Pas moi particulièrement, mais effectivement, je vous disais tout à l'heure que cet artiste Abdelkader Benchama travaillait sur des disciplines philosophiques ou scientifiques pour aborder des frontières parfois un peu floues entre les espaces réels et les espaces mentaux à travers ces disciplines-là. Et donc pour cette œuvre-là en particulier, il va s'attacher à sonder l'alchimie. À l'origine, l'alchimie fait corps avec la chimie. On est sur une seule et même discipline qui s'intéresse à la transmutation des matériaux et notamment celle des métaux. C'est grâce à l'alchimie, par exemple, qu'on apprend comment fabriquer du laiton et du verre. Et à partir du 18e, on a une césure entre la chimie de Lavoisier, la chimie classique de Lavoisier, et l'alchimie qui va prendre un virage assez proche d'une forme d'occultisme, notamment avec cette fameuse pierre philosophale dont vous avez sûrement tous et toutes déjà entendu parler au moins une fois. Effectivement, cette pierre philosophale, elle a été recherchée pendant de longues années par les alchimistes, notamment parce qu'elle devait effectivement permettre de transformer les métaux pauvres en métaux précieux, donc le plomb en or, mais elle arrivait en même temps que ce qu'on appelait la thématique du grand œuvre, qui était une forme de recherche entre, après une immortalité humaine. Et donc cette pierre philosophale, elle devait permettre ça. Et la légende dit qu'elle devait être faite d'une matière qu'on appelait la prima materia, qui était la matière du chaos finalement, et qui était faite des quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Raison pour laquelle Abdelkader Benchama a proposé absolument des traitements graphiques qui diffèrent en lien avec chacun de ces éléments dans sa fresque, tout en noir et blanc, très vibrant.
Oui, mais moi, où j'y suis restée un certain temps, il y a des couleurs, hein, il faut prendre le temps, il y a des détails, l'alchimie est là, on est la chimie des couleurs.
Tout à fait.
Alors nous allons passer là dans les dorures, mais il y a tout de même un lien, puisque vous parliez des références. Dans cette pièce que vous allez nous décrire, il y a quatre, c'est pas des médaillons puisqu'ils sont rectangulaires, mais il y a la référence aux arts, la référence à la guerre, la référence à la musique
et aux découvertes et à la marine.
Donc il y a toujours tout de même cette symbolique. Et puis dans cette salle qui est très basse, moi j'avais l'impression enfin de pouvoir presque toucher des dorures, qui sont générales à 10-12 mètres de haut,
bien sûr.
Et là qui sont très, très proches de nous. Moi ce que je retiens, c'est un mélange d'une cariatide avec deux atlantes, c'est
bien
tout de même rare. Hein,
très rare, et encore plus de les voir apparaître dans une fresque plastique, hein, puisque ce sont les atlantes et les cariatides, des éléments, des personnages féminins et masculins, qui sont en général sur les devantures de bâtiments, en façade, comme des piliers pour soutenir les balcons et les frises.
Mais là, ils sont...
Ils soutiennent les médaillons, justement.
Et puis les quatre références florales aussi.
Absolument. Vous allez retrouver à l'intérieur des ornements végétaux, certains d'entre eux sont uniquement décoratifs alors que d'autres sont effectivement là pour symboliser des valeurs humaines. Donc on va retrouver par exemple la branche de laurier en lien avec la gloire, et en particulier évidemment la gloire de la bourgeoisie du XVIIe siècle. Vous avez également la branche de chêne pour représenter la force. On va retrouver un morceau de vigne en lien avec les plaisirs, et pour finir il n'y a pas que juste à côté d'ailleurs, et pour finir bien sûr l'amour avec la
avec
de rosier.
La rose. Donc c'est une salle où les gens peuvent donc dîner, hein, au
Absolument.
Restaurant gastronomique. C'est un lieu magique. Vous m'avez raconté que il y avait un sous-plafond qui avait été collé carrément aux fresques.
Donc là, on a traversé cette première salle. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a effectivement Bacchus et certaines déités qui sont là pour représenter une forme de cycle temporel et certaines saisons spécialement. Et puis, quand vous rentrez dans la deuxième salle, on a une fresque qui est très différente. La première est en bas-relief avec beaucoup de foisonnement. Elle est très riche. Et puis, vous avez toutes ces dorures, effectivement. La deuxième salle était à l'origine un vestibule. Et effectivement, pendant le temps de l'hôtel de ville, puisque l'hôtel Richet de Belval a été pendant près de 150 ans l'hôtel de ville de Montpellier, cette fresque avait été recouverte de plusieurs couches de faux plafonds. Donc les personnes qui se sont chargées de la restauration, qui sont les ateliers de Ricou, ont dû évidemment détruire les plusieurs couches de faux plafonds pour enfin atteindre cette fresque qui avait été très abîmée, notamment par la colle entre les stucs et le réel plafond. Et on a un travail qui est un trompe-l'œil, finalement, qui simule une architecture entre l'intérieur et l'extérieur, notamment dû au rôle de cette salle, qui faisait quand même le lien entre l'extérieur de la place de la Canourgue et l'intérieur aéré, on va dire, donc la cour intérieure de l'hôtel Richer de Belleval.
Oui, qui n'était pas fermée, parce que là, il y a une verrière maintenant qui a été construite, pareil, lors de la restauration, enfin pour l'ouverture en 2021.
Mais effectivement, c'était tout ouvert.
Ça grouillait, le passage des chevaux.
Bien entendu. Et
j'ai été très marquée par ces petits oiseaux. Là, en général, on voit plutôt des déesses, mais là, c'est des oiseaux, donc vous venez de le dire. C'est le passage entre l'intérieur
et l'extérieur. Et d'ailleurs, vous avez donc cette simulation architecturale qui se joue avec des éléments typiques du XVIIe et très en vogue à l'époque, donc des arcs plein cintre à claveaux, on va retrouver un médaillon central qui est une rosace, on a des masques avec des corolles, et puis on retrouve le fameux torche chaîné qui est là pour représenter la force de ce lieu.
Mais la volonté de montrer les étapes de la restauration, c'est bien. Parce que quand on voit tout restaurer, on n'imagine pas l'état dans lequel peut se retrouver une peinture. Alors là, volontairement, on a l'impression, enfin c'est pas une impression, on a laissé des endroits tels que vous les, enfin tels que la fondation l'a retrouvé, donc au bout de 150 ans de... C'est dommage.
Absolument. Donc en fait, c'est vrai que les ateliers de Ricou pour cette seconde salle et la troisième dont vous parliez avec les oiseaux, ont fait un choix d'une sorte de dégradé de restauration avec un fond de salle qui est restauré autant qu'il pouvait l'être et une entrée de salle qui a été simplement détourée en termes de contour au charbon de bois.
D'accord. Il nous reste y a beaucoup de choses à dire, donc vous en avez déjà dit beaucoup, Alba, et ça ne peut que donner envie de venir visiter, mais pour voir ces salles dont vous parlez, il faut prendre la visite guidée.
Sinon,
dans la visite libre, on ne voit que la fondation dans laquelle nous sommes là, et il nous reste un petit peu de temps pour parler donc de Marlène Moquet.
Absolument.
Je disais que le baroque lui va bien.
Tout à fait.
Parce que là, nous sommes dans la fondation, mais on est passé, nous, par l'escalier d'honneur, où il y avait aussi en haut les mêmes thèmes que l'on retrouve ici, c'est-à-dire ces pommes, ces dorures, les tentures sont faites dans ce but-là. Donc, c'est une artiste polyvalente. Enfin, bon, elle travaille, bien sûr, avec d'autres ateliers pour, je suppose... la céramique, elle a fait elle-même.
Elle est toute seule.
Elle est toute seule, elle a
talents. Alors, je sais qu'elle a été assistée, qu'elle a des assistants et des assistantes de temps en temps, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille de manière assez intense. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, il y a cette espèce de foisonnement qui est assez merveilleux. Donc, pour vous reposer un contexte, vous qui nous écoutez, on a donc Marlène Moquet, qui est une artiste française, qui était déjà intervenue au sein de l'hôtel Richer de Belleval, puisqu'elle fait partie des artistes contemporains et contemporaines qui ont investi les plafonds de l'hôtel Richer de Belleval avec une œuvre pérenne. Celle-ci, elle l'a appelée Longue Vue. Et donc, elle est entourée du travail également d'Olympe Rakanaweiler et de Yann Fabre dans le bar. Et donc, c'était l'occasion pour elle de réinvestir les lieux, cette fois-ci avec une exposition temporaire qu'elle a appelée « Différents parfois, libres toujours ». Et qu'elle a pensé en deux temps. Vous avez une première partie qu'on retrouve dans les premières salles de la fondation, donc première partie d'exposition, qui reprennent d'ailleurs les bustes que vous voyez ici.
Mais oui, on revoit nos empereurs romains.
On revoit les empereurs romains. Donc cette première partie d'exposition... c'est un hommage aux personnes de l'hôtel Richer de Belleval qui ont permis à Marlène Moquet d'accrocher cette œuvre à l'étage. Donc vous allez trouver tour à tour Thierry Aznar qui est juste devant nous, qui est donc l'ancien directeur du groupe Hellénis qui faisait autrefois partie du groupe GGL. Sur notre droite, on va retrouver Numa Ambursin. Numa Ambursin, c'est l'actuel directeur du MOCO et c'est l'ancien directeur artistique de la Fondation. Tout au fond de salle, sur la droite, vous avez les trois fondateurs du groupe GGL, donc Alain Guiraudon, Jacques Guiponi et Jean-Marc Legge, c'est ça que veut dire GGL. Et sur notre gauche, on va retrouver les deux chefs du restaurant Le Jardin des Sens, donc à savoir Jacques et Laurent Pourcel.
Elle a beaucoup d'humour, j'ai l'impression.
Oui.
Je ne dis pas que c'est ironique, mais c'est traité d'une façon... avec plein d'humour, avec... Mais les empereurs romains qui sont là-haut sont aussi un petit peu
presque un peu...
Oui, ils ne sont pas en gloire.
Il y a ce côté, avec cette esthétique un peu grotesque qui fonctionne assez bien avec les empereurs qu'on trouve dans l'escalier d'honneur. Et effectivement, Marlène Mauquet, elle récupère ce format-là pour cette fois-ci, et donc rendre hommage à ces personnes en proposant des portraits analytiques de chacun d'eux.
Donc elle a parlé avec eux.
Elle a parlé avec eux. Alors on a une magnifique photo du scan 3D des visages de chacun, puisqu'il a fallu faire les moulages. C'était plus confortable de prendre des photos en 3D que de leur mettre du plâtre sur le visage directement. Et effectivement, donc, ces portraits analytiques, ils abordent des éléments qui sont en lien avec leurs univers intimes, de famille, d'enfance.
Je ne sais pas si c'est un violon ou un violoncelle, mais là,
c'est une guitare.
Une guitare. Mais oui. Je suis de côté, donc j'ai...
Oui, vous ne la voyez pas.
Il y a le stylo, il y a... Et quand ils se sont vus, les personnes ont été gênées ou au contraire?
Alors, j'ai pas vu les réactions de tous.
Ils ont peut-être pas envie d'en parler non plus.
Ça, je vous avoue que je ne sais pas. Je sais que Numa Ambursin a acheté cette pièce-là et qu'il avait l'air absolument ravi de ça. Moi, je sais que s'il s'agissait de moi, peut-être que j'aurais plus de mal à me voir glorifiée de cette manière-là. C'est quelque chose d'assez étrange, j'imagine. Mais j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec eux.
C'est très dense, c'est très chargé. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à la céramique de Bernard Palissy, enfin les qui sont toujours très très chargées, les vaisselles en chou-fleur, en
artichaut. C'est ça.
Il y en a partout, et c'est ce qu'on trouve aussi un peu dans la seconde salle avec cette table.
Alors effectivement, la deuxième salle, qui est la deuxième partie de l'exposition, elle se rapproche d'autant plus de ce que fait Marlène Mauquet hors du contexte d'hommage aux personnes de l'hôtel Richer de Belleval. Donc effectivement, comme Sylviane vous le disait, on a une table au format carré d'ailleurs, hein, qui est un hommage au banquet. Pardon.
Ouais.
Et effectivement, vous allez retrouver sur cette table une douzaine de couverts comprenant assiettes, couteaux, fourchettes et tasses. Et qui sont des petits mondes à part entière, qui sont autonomes les uns des autres, mais qui fonctionnent comme un ensemble. Et elle a pensé cette pièce avec notamment la tapisserie qui joue un rôle qui est quand même assez majeur dans cette partie de l'exposition, puisqu'elle nous propose finalement une installation qui est totale, qui est immersive. Et cette tapisserie, elle reprend l'une...
Elle est extraordinaire.
Elle est incroyable. C'est un zoom dans l'une de ses peintures, de ses micro-peintures que vous retrouverez donc dans cette deuxième salle. Et elle reprend le format des tests de Rorschach, donc les tests qu'on utilise en psychiatrie avec ces fameuses taches symétriques et dont on vous demande ce à quoi elles vous font penser.
Mais je pense qu'on ne peut qu'avoir envie de venir voir parce que bon, la parole a ses limites, mais elle donne envie. Et je trouve que dans cette émission, merci Alba, on est passé du passé à actuellement, une sorte de continuité, parce que où il y a une continuité, l'être humain de tout temps a été un artiste, et je trouve que ça pourrait être notre conclusion, c'est ma conclusion, je ne sais pas la vôtre, je l'écoute, votre conclusion.
Je suis absolument d'accord avec vous, je pense que ce lieu, ce qui le rend si singulier, c'est que toutes les périodes cohabitent. Donc là, on est dans une fondation qui était plutôt axée habitation médiévale, l'avant du bâtiment 17e, en même temps avec toutes ses œuvres contemporaines, le restaurant gastronomique. Donc effectivement, on a une cohabitation qui fonctionne très bien entre ces différents temps.
Venez, venez.
Je vous accueillerai avec grand plaisir.
Merci Alba.
Merci Sylviane.